Mon message sera plus court ce matin, mais il sera quand même basé sur la parole de Dieu. Et je vais lire un passage dans 1 Thessaloniciens 5. Donc c'est dans le Nouveau Testament, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 à partir du verset 14. « 1 Thessaloniciens 5, 14, nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous suivons cet ordre, nous lisons cette lettre et nous voulons regarder ces avertissements ici ce matin. Quand je pense aux églises de France, aux églises évangéliques en particulier, c'est à la fois encourageant et triste. Encourageant parce qu'il y a des progrès, il y a des églises qui démarrent, qui se plantent, qui naissent. Il y a des églises qui avancent, on a eu des bonnes nouvelles de l'église baptiste de Nice, par exemple. Il y a des jeunes, des groupes de jeunes qui se forment, et il y a des jeunes qui se consacrent à Dieu, qui veulent annoncer la bonne nouvelle autour d'eux. Et puis, de l'autre côté, il y a des églises qui ferment, des églises qui n'ont pas de pasteur, des églises qui s'éteignent. Il y a des chrétiens qui ne vont plus dans une église. Il y a, je pense, en France, des milliers de chrétiens qui ont entendu l'évangile, qui ont cru, qui ont suivi pendant un temps et qui ne vont plus dans une église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu différentes choses, mais c'est triste parce que tous ces chrétiens-là, ils pourraient être une force pour la gloire de Dieu. Et ces avertissements, c'est un petit peu pour nous protéger, nous mettre en garde. Et il y a trois domaines où notre ennemi, Satan, veut nous voler. C'est un menteur, c'est un meurtrier, dit la Bible, mais c'est aussi un voleur. La première chose qu'il veut nous voler, c'est notre unité entre frères et sœurs. Ici, dans les versets 14 et 15, il dit « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Et c'est entre chrétiens aussi. Entre chrétiens, on peut être vindicatif. On peut se venger. On peut vouloir du mal à son frère ou à sa sœur. Et ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ du tout. Et Satan aimerait nous voler notre unité parce que quand les chrétiens sont unis, quand une église locale en particulier est unie, quand des églises dans un pays sont unies, ça fait une force extraordinaire pour l'évangile, pour la gloire de Dieu. Mais quand l'église est désunie, quand c'est chacun en tirailleur, vous savez, quand on est en tirailleur, c'est-à-dire toi tu es là, moi je suis là, toi, lui il est là, on va nulle part. Il faut être un corps, une famille. On est un corps en Christ. Et Satan essaye de diviser continuellement les églises, de monter les chrétiens les uns contre les autres. Comme on est une famille chrétienne, spirituelle, c'est facile pour lui parce qu'une famille, il y a toujours un sujet de désaccord. Il y a toujours une personne qui ne nous plaît pas trop ou qui dit quelque chose qui ne nous plaît pas. Et c'est vraiment de la rigolade pour Satan de nous faire chuter. Mais c'est à nous d'être sur nos gardes et d'être toujours dans cet esprit du Seigneur, de ne jamais rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un me fait une crasse, je ne lui rends pas ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que je dois lui rendre selon l'Écriture? Quand quelqu'un me fait du mal, le bien. Je dois lui rendre une bénédiction. Vous dites, mais c'est absurde, c'est fou, ce n'est pas, c'est pas juste, c'est illogique. C'est pourtant l'Esprit de Christ. Si on a l'Esprit de Jésus-Christ, on doit rendre le bien. Et ça a un effet extraordinaire de rendre le bien à quelqu'un qui vous fait du mal. Parce que cette personne, ça lui renvoie son mal. Parce que vous lui envoyez du bien et elle dit, mais je ne comprends pas, je lui ai fait du mal, elle me renvoie du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça l'amène parfois, pas toujours, hein, parfois à se repentir elle-même du mal qu'elle a fait. Et vous me dites, mais je n'ai pas la force. Moi, si on me fait du mal, moi, je rentre dedans. Mais quand on a l'Esprit de Christ, on peut justement arrêter de rentrer dans les gens et prier, dire, Seigneur, tu vois cette personne, je lui en veux. Mais apprends-moi à pardonner. Notre sœur nous a beaucoup parlé du pardon. Les victimes de crimes, hein, ou de vols, etc., sont des gens qui sont parfois... Leur vie a été changée. Ils ne sont plus les mêmes après ce qu'ils ont vécu. Mais quand il y a le pardon, il y a toujours la cicatrice qui est là. Hein, mais le pardon vous aide à recommencer votre vie, à rebâtir, à avancer, à ne pas rester dans votre souffrance ou votre victimisation. Et en tant que chrétien, on ne doit pas s'arrêter sur ce que a dit ou fait un tel, on doit avancer. C'est l'amiral Nelson, lorsqu'il était aux commandes de la Navy anglaise, il avait un moment deux ou trois officiers sur le pont avec lui qui se querellaient sur la façon dont il fallait se défendre. Et Nelson a dit « Ça suffit, l'ennemi, il est là-bas ». Et il avait cette façon autoritaire de bien montrer les choses. L'ennemi, ce n'est pas entre nous. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est l'erreur, le mensonge. C'est le mal, le péché. Ça, c'est l'ennemi. Mais entre nous, on doit se serrer les coudes. Particulièrement aujourd'hui, où la chrétienté et les églises sont attaquées. Il y a de nombreux pays où les églises sont violemment attaquées par des gens qui veulent tuer les chrétiens. Il y a eu ces 21 coptes qui ont été assassinés, décapités. Il y a les églises au Niger qui ont été détruites, brûlées, les chrétiens tués, encore pourchassés en Libye, etc., partout. Ça va devenir compliqué d'être chrétien dans le monde. Mais c'est le moment, justement, de se serrer les coudes et de chercher à avoir l'Esprit du Seigneur, de consoler ceux qui sont abattus, d'avoir la compassion pour ceux qui souffrent. Nos frères et sœurs en particulier, d'être patient envers tous. Il ne dit pas « soyez patient envers les gens gentils », « soyez patient envers ceux que vous aimez bien », il dit « soyez patient envers tous ». Là encore, la patience, c'est un don du Saint-Esprit, mais c'est aussi quelque chose qu'on développe, qu'on cultive. De ne pas s'emballer, de ne pas exploser, mais d'agir avec patience, avec persévérance, avec l'amour. Dans la famille de Dieu, toutes les mauvaises attitudes doivent être bannies. Les malhonnêtetés, les abus, le harcèlement, la calomnie, les critiques, les méchancetés, les coups bas, tout ça doit être totalement absent des églises parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, il y a au moins deux versets qui me touchent particulièrement à ce sujet. Un, c'est dans les Proverbes où il dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle divise les amis. » Et là, il y a un choix à faire. Ou je vais couvrir la faute parce que je veux aimer, je veux que la personne progresse. Ou je vais rappeler toujours les fautes des gens et ça va diviser en permanence. C'est facile de rappeler les fautes des autres. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on regarde nos fautes à nous. Ça, il faut les regarder. Mais les fautes des autres, il faut les couvrir. Il faut prier pour que les frères et sœurs progressent. Bien sûr, il y a des péchés où l'Église doit exercer une certaine discipline. On ne peut pas laisser le péché naviguer dans notre sein, mais on doit toujours le faire avec la paix et l'amour. Un autre verset, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité, l'amour, couvre une multitude de péchés. » Et là encore, l'amour passe, parce que si on devait s'arrêter sur chaque détail, on ne vivrait plus. Imaginez que vous preniez une bonne résolution le matin en vous levant. Je vais pointer tous les défauts de ceux que je côtoie. Chaque fois qu'il y a un truc qui cloche, je vais le dire. Ah, je vous promets une belle journée, là. Vous allez finir complètement aigri, complètement rétréci. Non, on est obligé de couvrir, on est obligé. Et ça fait partie de l'amour, ça fait partie des bonnes relations humaines. Sinon, il n'y aurait plus de relations humaines. On s'arrêterait tout le temps, on serait séparés. Chacun serait dans son île, en disant, au moins dans mon île, personne ne m'embête. Mais on doit vivre ensemble et on doit aimer en tant que chrétien notre prochain et nos frères et sœurs. Et pour aimer, il faut accepter de passer sur des choses qui nous déplaisent pour aller plus loin avec la personne. Le deuxième voleur se trouve dans les versets suivants. Soyez toujours joyeux. Et c'est les voleurs de joie. Satan veut nous voler notre joie. Et ça lui est facile aussi, il suffit de nous semer deux ou trois petits soucis, des contrariétés, des frustrations, et ça y est, il n'y a plus de joie, et on va passer notre journée dans la tristesse, en ronchonnant, en maugréant, au lieu d'avoir la joie. Et la Bible a dit que la joie de l'Éternel sera votre force, votre force. La force du chrétien, c'est la joie de Dieu. Pourquoi c'est une force, la joie? Je vous pose la question. Ça donne une énergie, c'est vrai. Parce que quand on est joyeux, on est enthousiaste, on est prêt à aller. On n'est pas là, oh, je ne sais pas. Non, on veut. Qu'est-ce que ça donne comme force aussi? Un optimisme, on dit tout est possible. Et c'est vrai que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et il y a toujours les pessimistes qui voient toujours le verre à moitié vide. Mais nous, on doit voir le verre que Dieu va remplir. Même s'il est vide, Dieu peut le remplir. Ça, c'est la foi. La foi peut surmonter tous les obstacles parce que Dieu peut surmonter tous les obstacles. Ce n'est pas la foi elle-même, hein, c'est la foi en Dieu. Alors, ne nous laissons pas prendre notre joie. Ici, il dit « Priez sans cesse, soyez toujours joyeux ». On doit, chaque fois qu'on a un souci, on doit le remettre à Dieu dans la prière. Et ça nous donne une joie. Vous avez un problème, n'importe lequel, le plus petit problème de la journée, mais ça vous empoisonne la vie. Et vos pensées surtout, c'est là que ça se joue. Hein. Eh bien, il ne faut pas laisser ces trucs grandir dans la pensée, ces petits soucis. Il faut tout de suite le remettre à Dieu. Seigneur, tu vois, j'ai ce souci. Prends-en soin. Dieu a dit, je prendrai moi-même soin de vous. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et puis, il dit aussi, rendez grâce en toute chose. Ça, c'est le secret, de remercier Dieu, d'être reconnaissant à Dieu, d'être reconnaissant pour les autres personnes aussi. On manque de reconnaissance en France, on voit que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu du travail, de l'entreprise, et même aussi dans les églises. Il y a un manque de reconnaissance. C'est-à-dire, les gens travaillent dur, ils en bavent, et personne ne vient jamais leur dire « Mais c'est super ce que tu fais, bravo, merci !» Non, c'est normal, il faut que tu travailles, il faut que tu le fasses. Ah, t'as eu des mauvaises notes, alors là, on va te tomber dessus si t'as eu des mauvaises notes, mais on ne te remercie pas, il n'y a pas cette reconnaissance, ce contentement. Nous sommes des râleurs, on a cette réputation en France d'être des râleurs perpétuels. Eh bien, le chrétien ne doit pas être un râleur. Il doit être quelqu'un qui rend grâce en toute chose. Merci, Seigneur. J'aime bien citer l'exemple toujours de ce frère qui, à table, pour remercier pour le repas, il disait toujours « Merci pour l'eau potable que nous pouvons boire. » Parce que dans certains pays, avoir de l'eau potable, c'est compliqué. Et nous, on ouvre le robinet, à Paris en tout cas, ce n'est pas le cas partout, à Paris, vous ouvrez le robinet, vous avez une bonne eau potable, vous pouvez boire. Il faut la payer quand même, mais c'est pas compliqué. Merci Seigneur pour ces petites choses. Quand j'ai été au Cameroun par l'envoi du Seigneur et dans la brousse, après quand je suis revenu à la maison, j'ai dit merci Seigneur pour le confort que l'on a, parce que les frères et sœurs là-bas, il leur manque pas mal de choses. Hein. Et notamment cette eau courante que vous avez, vous tournez un robinet, eux ils allaient à 100 ou 200 mètres, avec des bidons, chercher de l'eau dans le marigot ou dans le fleuve. C'était souvent des enfants qui portaient ça, ou les mamans sur leur tête, hein, des grands bidons de 20 litres ou 30 litres. Et c'était l'eau pour la journée. Moi, je tourne le robinet. Pff, voilà. J'abuse même des fois. Hein. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a. Ça, c'est, ça vous empêche de perdre la joie, ça vous donne de la joie. Et puis, n'éteignez pas l'esprit. L'Esprit de Dieu veut agir en nous, veut nous parler, veut nous donner cette joie. On parle de la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est joyeux. Le Saint-Esprit n'est pas triste, n'est pas grave. Le Saint-Esprit est joyeux. Il est saint et joyeux. On a cette idée que ou tu es joyeux ou tu es saint. Non, tu peux être saint et joyeux en même temps. La sainteté est joyeuse. L'amour est joyeux. Bien sûr, on a des sujets de tristesse, on a des mauvaises nouvelles, on l'a appris, on a des épreuves dans la vie, on peut être malade, on peut souffrir. Mais tout cela ne doit pas nous voler néanmoins cette joie profonde, intérieure, du Saint-Esprit. La joie que Dieu est vivant, que Dieu répond aux prières, que Dieu est là avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il m'a donné son salut, son ciel. Je vivrai pour l'éternité avec lui. Et puis, il dit ensuite, ne méprisez pas les prophéties. À cette époque-là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, les Thessaloniciens. C'était parmi les premiers chrétiens de Grèce. Et donc, il fallait révéler la parole de Dieu pour la Nouvelle Alliance. Et il y avait des prophètes dans les églises qui étaient inspirés et qui déclaraient, expliquaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes parce que la Bible est terminée, mais nous avons la parole de Dieu qui est là, justement, à utiliser. Et nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu. Elle est une source de joie, de consolation, de force pour le chrétien. Ce qui cloche aussi dans les églises, c'est justement que la Bible a été mise de côté. Elle a été remplacée parfois par la musique. Il y a 1h30 de musique dans certains cultes et 20 minutes d'études bibliques ou de passages dans la Bible. Et finalement, on est plus dans la musique que dans la Bible. Mais c'est bien la musique, c'est super de louer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va vraiment m'aider dans la vie chrétienne? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va me nourrir? Qu'est-ce qui va me fortifier, me prémunir des dangers? C'est la parole de Dieu. Et on doit la lire, la méditer, l'étudier. Et puis le troisième voleur, c'est la sainteté, la sanctification. À partir du verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. » Et là, c'est quelque chose, on apprend une chose sur l'être humain. L'être humain est fait de trois parties. Verset 23, « L'esprit, l'âme et le corps. » Nous avons trois parties. Nous sommes une trinité. Et il y a des gens qui disent, « Ah, moi, je ne peux pas croire à la trinité de Dieu, ce n'est pas possible. » Nous sommes une trinité. Déjà, nous avons notre corps et dans notre corps habitent notre âme et notre esprit. L'esprit est mort tant qu'on n'est pas au Seigneur. L'esprit est coupé de Dieu tant qu'on ne s'est pas repenti, qu'on n'a pas cru en Jésus-Christ. Mais dès que l'on croit en Jésus-Christ, l'esprit vit. Et c'est cet esprit qui nous permet d'être en contact avec Dieu et c'est cet esprit qui sanctifie notre âme et notre corps. Notre âme est sujette au péché. À travers le corps aussi. Hein. Notre âme peut être orgueilleuse, peut être jalouse, peut être méchante, et elle a besoin d'être sanctifiée. Et c'est le rôle de l'Esprit et du Saint-Esprit en nous de nous rendre saints. Et la sainteté, ce n'est pas simplement le corps. Dans les religions orientales, notamment dans le judaïsme et dans l'islam, on attache énormément d'importance à la pureté du corps. Il y a des ablutions continuelle, on se lave les mains rituellement, on se lave le corps, on se lave la tête et on est tout le temps à vouloir être propre, on ne mange pas de nourriture impure, pas de porc, le porc c'est impur, on ne va pas dans des endroits impurs, on ne salue pas, hein. Chez les salafistes musulmans, donc les intégristes musulmans, ils ne vont pas serrer la main à un non-musulman, à un mécréant ni à une femme. Il y avait cette mère de famille française dont le fils s'était converti. Et elle dit, quand mon fils ne voulait plus me saluer ou me faire la bise, j'ai compris que quelque chose de grave s'était passé. Hein. Il ne voulait plus lui faire la bise. C'était impur. Eh bien, Jésus est venu nous apporter un autre message. Il dit, c'est pas ça l'impureté ou la pureté. C'est pas par le corps, c'est par le cœur. Et Jésus a dit, c'est pas ce qui entre qui souille. C'est ce qui sort, c'est ce qui vient du cœur. Et si le cœur est pur, le corps va suivre aussi. Comment avoir un cœur pur? Comment ne pas se faire voler la pureté du chrétien. Quand on accepte le Seigneur, quand on est nouveau croyant, on est tout feu, tout flamme, et on dit, oh là là, fini le péché, moi je veux une vie pure. Et puis, avec le temps, on reprend un péché par-ci, un péché par-là, et on finit par se dire, mais je ne suis pas si pur que ça. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sanctifié de la tête aux pieds, hein, l'esprit, l'âme et le corps. Qu'on soit saint, séparé de tout ce qui est mauvais, sale, péché, dans l'intérieur. Comment faire cela ? Eh bien, c'est dans la relation avec Dieu. D'abord, il est dit ici que c'est Dieu qui fait ce travail extraordinaire, miraculeux. Verset 24, « Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera, qui fera ce travail de sanctification. » Comment Dieu fait ce travail de sanctification ? Est-ce que, comme ça, il nous purifie ? Psst ! Un petit peu. Par exemple, quand on devient chrétien, on n'a plus les mêmes pensées. Je me souviens, par exemple, j'utilisais beaucoup de jurons, de gros mots quand j'étais non-chrétien. Ça faisait partie de mon vocabulaire, je ne voyais aucun problème. Voilà, j'avais deux ou trois jurons par phrase. Mais quand je suis devenu chrétien, c'est sorti de ma bouche. Je n'ai même pas eu à faire de tri, c'était fini. Un chrétien ne parle pas comme ça. La cigarette, c'était pareil. Au bout de quelques temps, de quelques semaines de conversion, je me suis dit, mais un chrétien, ça, et la cigarette, ça ne va pas. Hein. La cigarette, c'est un poison, je ne veux pas m'empoisonner. Et il y a plein de choses comme ça qu'on enlève. Et puis, surtout, l'orgueil, l'égoïsme. Parce que la cigarette, c'est visible, mais l'orgueil et l'égoïsme, ça, c'est grave. Ça, c'est terrible. Et le Seigneur veut enlever ça aussi. Il veut le remplacer par son amour et sa joie. Et Dieu fait un travail par le Saint-Esprit. Comment fait-il ? D'abord, il nous change, il nous transforme. Il nous éprouve aussi. À quoi servent les épreuves du chrétien ? Elles servent à le sanctifier, justement. Parce qu'elles nous révèlent où on en est avec Dieu et elles nous montrent ce qui ne va pas. Vous connaissez la purification de l'argent et de l'or ? On le fait chauffer à une température extrême dans un creuset. Et quand il chauffe, il devient bouillant et liquide. Et les scories, c'est-à-dire les saletés, les impuretés du métal, remontent à la surface. Et le fondeur, avec une pelle spéciale, ramasse les scories et il laisse refroidir le métal. Et puis ensuite, il le refait chauffer et il y a encore des scories. On se dit, mais c'est pas possible, il ne devrait plus y en avoir une seule. Mais non, c'est encore là, ça n'arrête pas. Et Dieu nous fait chauffer aussi. Ah oui, Dieu nous fait chauffer dans des épreuves. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a un creuset. C'est-à-dire, c'est une épreuve qui est préparée pour toi, pour moi. Mon épreuve n'est pas ton épreuve. Parce que Dieu est mon Père, parce qu'il m'aime, il ne va pas m'éprouver au-delà de mes forces. Il ne va pas me donner une épreuve qui fait mal, qui me casse. Il va me donner une épreuve qui me sanctifie, qui me fait progresser. On ne progresse que par la difficulté. Hein. Regardez un sportif. Comment il va faire des progrès ? Est-ce que vous croyez que c'est en dormant dans son lit qu'il va faire des progrès ? Non, il va falloir qu'il court plus, qu'il travaille plus, qu'il mange mieux, qu'il dorme mieux. Il va falloir qu'il fasse plein de choses difficiles. Mais au bout, il va gagner des secondes, ou je ne sais pas, hein, peu importe le sport, ou des mètres. Mais il va avoir des moments difficiles. C'est pareil pour le chrétien. Pour progresser, il faut passer par des épreuves. Mais on ne doit pas laisser Satan nous voler notre pureté, notre incorruptibilité. C'est ça qui fait la beauté du chrétien, c'est sa pureté. Il y a des personnes, quand ils nous racontent un peu ce qu'ils ont fait dans leur vie passée, on dit, mais ce n'est pas possible, toi tu n'as pas pu faire des choses pareilles. Si, si, si. Il y a eu un tel changement que la personne est transformée. Et il y a des prostituées qui sont devenues des chrétiennes magnifiques, des criminels, des tueurs. Des ivrognes invétérés, des drogués profonds, des délinquants qui ont été transformés. J'étais touché, en effet, quand j'ai visité cette prison avec Claudine et que ce jeune homme, je pense qu'il avait volé. Et à travers le témoignage d'un des chrétiens qui venait dans ce cours, il a vraiment voulu en savoir plus sur Jésus-Christ. Et il a compris qu'il était séparé de Dieu, que son péché était grave. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être pardonné ? Et ce chrétien lui a expliqué l'évangile. Mais Christ est mort pour toi. Il te pardonne gratuitement si tu lui demandes pardon, si tu te repens. Et cet homme, dans sa prison, il a reçu le Seigneur. Et quand on l'a vu, il a dit, je suis tout fier de vous annoncer que je vais être bientôt baptisé au nom du Seigneur. Il était dans la joie. Franchement, on se demandait ce qu'il faisait là. Si on l'avait mis dans l'église, on n'aurait jamais dit que c'était un détenu. Jamais. Il y avait un sourire, une joie, une pureté. Ça, c'est l'œuvre miraculeuse de Dieu. Ne laissons pas flétrir notre pureté. Ce n'est pas parce que vous avez 15 ans de vie chrétienne que vous devenez un chrétien lamentable. Au contraire, on doit être de plus en plus beau, de plus en plus pur, beau dans notre âme. Et ça joue sur le corps aussi. Quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui est dans la pureté, ça se voit dans ses yeux, ça se voit sur sa peau. Il y a un effet dans le corps aussi. Alors, il y a trois voleurs. Voleur d'unité, voleur de joie, voleur de sainteté. Ne laissons pas Satan nous dérober. Fermons la porte et soyons des chrétiens qui prient, qui se réjouissent, qui remercient le Seigneur, qui s'aiment et qui restent purs. Que le Seigneur vous garde et qu'il fasse cette œuvre aussi en nous extraordinaire. Toute cette semaine, on va s'incliner dans la prière et après on va chanter un cantique.